Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Malgré le petit temps maussade et cette petite pluie, on va vous tenir compagnie pour les deux prochaines heures. On aura l'occasion de parler de séries télévision et documentaires sur les différentes plateformes qui sont très, très, très populaires. Et je parle des séries de true crime, c'est-à-dire des séries d'affaires criminelles. Il y a beaucoup de livres aussi qui s'écrivent là-dessus. Ceux qui font de la fiction true crime sont effectivement très, très bons vendeurs. Et on a chez nous au Québec Victoria Charles, qui est de plus en plus connue à l'international parce que c'est une YouTubeuse qui, avec sa chaîne YouTube, qui fait vraiment dans les affaires criminelles, elle est devenue très connue. Alors, on l'aura en deuxième heure d'émission. On va essayer de voir pourquoi vous êtes si fascinés par les affaires criminelles. Comme ça, c'est quand même des histoires dramatiques, là, du monde qui meurt. On aura également Benoît Charrette, entre autres, qui va pouvoir nous dire et surtout peut-être nous aider à mieux se contrôler au volant. Vous avez vu l'histoire hier, l'autoroute 13, fermée parce que il y a eu un cas de rage au volant qui a fait en sorte qu'un gars qui coupe un autre gars qui rentre dans un lampadaire. Ça a donné ça un peu hier. Mais là, on le voit, on a tous, puis je suis sûre que vous allez être nombreux à me les décrire, on a tous au cours des derniers jours sans doute vécu ou été témoin d'un cas de quelqu'un qui, s'il n'est pas enragé, il est sur le bord de péter sa coche l'autre bord du volant. Alors ça, c'est à ne pas faire. Et surtout qu'il faut garder en tête, les cyclistes vont sortir, là, si ce n'est pas déjà fait. Donc, il faut y penser. Plus de piétons aussi dans les rues. Donc, il faut être sage et respirer par le nez. On va parler toutefois en première heure de l'augmentation des cas de COVID parce que ça, c'est une inquiétude. Je sais que vous êtes inquiets. Beaucoup de gens m'ont posé des questions au cours des deux derniers jours parce que là, on voit une augmentation, surtout hier. Là, on a dépassé, on s'approche du 1000. Évidemment, le 1000, hein, je vous l'ai souvent dit, c'était l'espèce de chiffre qui est un peu dans notre tête comme étant une barre psychologique d'inquiétude. Il y a comme une lumière rouge là, qui, pour pas parler de la zone, qui s'allume quand on s'approche du 1000, qui nous fait dire, bon, doit-on s'en inquiéter? Alors, on va parler de ça au cours de la prochaine heure. Surtout au moment où on rouvre les gyms, hein, à partir d'aujourd'hui, dans les zones rouges, vous pouvez retourner faire des poids, des machines, tout ce que vous voulez dans votre gym préféré. Est-ce que c'est le bon moment d'ouvrir les gyms si on commence à se réinquiéter des cas qui augmentent de COVID? Pour parler de tout ça, vous pouvez me joindre au 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Avec moi, le virologue Benoît Barbeau, il est professeur au département de sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Barbeau.
Bonjour, Mme Maréchal.
On s'en inquiète de l'augmentation de ces cas. Est-ce que les deux dernières journées, là, où nettement, là, on le voit, là, c'est évident, ça augmente. Est-ce que ça vous inquiète, vous?
Oui. Certainement. Je crois qu'il ne faut pas nécessairement s'allier à la panique maintenant et même après. Mais n'empêche qu'on voit une tendance qui est assez claire, qui se dessine, où que le nombre de cas d'infection augmente, et plus particulièrement hier, où on a vu une augmentation qui était sérieuse. Alors, on s'est souvent un peu senti privilégié, ayant probablement appliqué les mesures nécessaires au Québec, de sorte à ce qu'on pensait pouvoir vraiment s'en sortir d'une troisième vague. Là, c'est vraiment le début d'une troisième vague. Je crois qu'on a juste à regarder à nos voisins de l'Ouest, les gens d'Ontario, pour voir un peu ce qui pourrait vraiment nous arriver. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bonnes chances que cette augmentation-là, vraiment, la base principale, c'est les variants. Puis, le variant du Royaume-Uni est sûrement responsable de cette hausse. Elle était quand même, moi, je dirais presque inévitable. On l'avait déjà quand même prédite en début d'année avec des modèles de mathématiques. Donc, n'empêche qu'on croyait que les mesures pourraient nous permettre justement de mieux contrôler. En ce moment, on est quand même au tout début. Alors, il faut vraiment qu'il y ait un suivi qui est strict, qui doit être fait. Le gouvernement québécois va sûrement, évidemment, regarder attentivement les différents chiffres, les différentes données, plus particulièrement dans les différentes régions. Et c'est là vraiment qu'il va falloir s'attarder pour s'assurer que toute région qui sont en zone orange, zone jaune, doivent être possiblement revisiter en termes des mesures qui sont appliquées, ouais, pour éviter justement des éclosions qui pourraient déborder.
Déborder notamment dans les hôpitaux, parce que c'est ça qui nous inquiète surtout. En fait, quand je dis nous, c'est surtout l'Institut national de santé publique du Québec qui disait que, bon, eux, ils trouvent ça alarmant, là. Ils disent, par exemple, le bond d'hier à 945 cas, J'écoutais Dr. Desserre, Gaston Desserre, qu'on a souvent à l'émission. Il disait, moi, je trouve ça un peu alarmant. Il faudrait voir, c'est clair que depuis plusieurs semaines, ces variants-là, on les voit augmenter de façon régulière, semaine après semaine. On voit que dans certaines régions, comme vous venez de le dire, Benoît Barbeau, ben, ils sont plus ou moins importants. On a vu là, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même assez majeur ce qui se passe. Ça a forcé la fermeture d'écoles. Même ce matin, j'écoutais le ministre de l'Éducation qui disait qu'il était même surpris lui-même par cette décision des administrations locales de carrément fermer les commissions scolaires. Donc là, il se passe quelque chose de peut-être plus vite que ce qu'on aurait... qu'on aurait modélisé, parce qu'on se fie au modèle. Hein. D'ailleurs, ce matin même, en ce moment même où on se parle, à l'INSPQ, ils sont en train de faire une nouvelle modélisation. Moi, j'ai parlé à des experts pas plus tard qu'hier qui me disaient même, le dernier modèle de l'INSPQ nous disait 2000 cas d'ici la fin avril. Je parlais à un expert hier qui me disait, nous, on a des modèles, ça peut aller jusqu'à 3500 cas. Ça deviendrait extrêmement dramatique, là.
Ben écoutez, ça demeure des modèles, mais en début d'année, n'empêche, c'était au Simon Fraser University, eux avaient modélisé la situation à travers les différentes provinces en tenant compte justement de la présence des variants et avaient entre autres suggéré que fin mars, début avril, on pourrait avoir une augmentation exponentielle du nombre de cas. Alors, ça demeure des modèles mathématiques, des modèles de prédiction, et puis, comme vous savez, bon, ces modèles-là fluctuent en termes en termes des données qui sont présentes. Donc, on ajuste constamment un peu à la façon, avec les données qu'on a des jours précédents. Donc, les semaines précédentes étaient quand même extrêmement encourageantes. On voyait quand même qu'on avait atteint un plateau et que ce plateau se maintenait, contrairement en Ontario, qu'on voyait ces augmentations. Mais il suffit juste, justement, que vous avez des événements possiblement aléatoires et que, surtout, que les variants se pointent le nez et vraiment deviennent plus prévalents, moindrement plus prévalents. Et c'est là que vous êtes en danger, que vous pouvez avoir une augmentation soudaine au nombre de cas. Alors, on n'est quand même pas dans une situation, je dirais, on parle justement que c'est arrivé plus rapidement qu'on le pensait. Mais en fait, j'aurais tendance à dire que c'est arrivé même, comme je vous dis, par rapport à cette étude en début d'année, et c'est arrivé quand même selon les prédictions de cette étude. Comme je vous dis, l'INSPQ quand même se base sur les données qu'on a au Québec, puis là, on peut faire des prédictions qui sont un peu plus précises. Mais malgré ça demeure des prédictions, on ne sait pas exactement à quel point ces variants-là vont prendre le dessus. Et ce qui est très important, c'est que ces variants-là sont beaucoup plus transmissibles. Alors, il y a beaucoup d'effets aléatoires qui peuvent faire en sorte que ça peut soudainement exploser, d'avoir nombreuses éclosions. Et on a eu quand même, comme vous avez dit, une mise en garde sérieuse avec le Bas-Saint-Laurent. On s'est aperçu que là, il y avait beaucoup plus de cas soudainement et que les variants étaient en cause. Alors ça, en soi, c'était, on pourrait dire, un cas, une situation qu'il fallait surveiller, qui était probablement qui est prémonitoire de ce qui pouvait arriver à l'échelle du Québec. Et là, en ce moment, on est devant ce qu'on croit être le début de la troisième vague. Et c'est à suivre vraiment comment cette troisième vague-là va continuer, va évoluer. Mais certainement, on a toutes les raisons d'être inquiets et de s'assurer, donc de faire le suivi et même d'être plus strict dans nos approches. Alors malheureusement, il y aura probablement des régions dont les zones, leur couleur va changer, pas nécessairement pour le mieux.
Oui, mais là, on s'en va pourtant dans des couleurs plus pâles et des assouplissements. Lundi, au secondaire, tout le monde retourne à l'école. Aujourd'hui, on rouvre les gyms. Là, je vous parlais des modélisations de l'INSPQ. Ils viennent justement à l'instant, là, ça vient de sortir. Les nouvelles modélisations dont on se parlait, ben, ils viennent de dire que les variants B117, c'est celui qui est le plus présent, et le B1351, le deuxième, donc plus présent au Québec, vont bientôt représenter plus de 50% des nouvelles infections de COVID-19 au Québec. On devrait peut-être même dire COVID-21, d'ailleurs, Benoît Barbeau, parce que ces variants-là sont là maintenant, là, non? On devrait peut-être changer le nom. Mais
rappelez-vous, excusez-moi.
Non, allez-y.
Rappelez-vous quand même, il faut faire attention, là. Le COVID-19, le mot désigne la maladie.
Ouais.
Donc COVID-21, les variants, du moins, ne causent pas une autre maladie. Donc,
non, ils sont une variante. Non, je ne nous en rajouterai pas. On n'en veut pas plus.
Exactement.
Je parlais à quelqu'un hier qui me disait ça, on devrait dire COVID, oui. COVID-21 pour ces variants. Mais c'est donc 50% des nouvelles infections, c'est quand même important. Et là, et parlons un petit peu de comment ça fonctionne, ces variants-là, pour un peu nous éduquer tout le monde. Ils se propagent rapidement parce qu'ils sont mieux capables de se transmettre d'une personne à une autre. Expliquez-nous un peu comment ça marche, un variant, là.
Bien, en fait, un variant, c'est une série de changements subtils du virus d'origine. Donc, on l'appelle son nom, c'est le SARS-CoV-2. Donc, c'est le virus de la COVID-19. Et à sa surface, il y a une protéine qu'on appelle la spicule qui est déterminante pour que le virus puisse se coller à une cellule et démarrer son processus de reproduction. Lorsque vous êtes infecté, ça veut dire que le virus a trouvé une cellule et a réussi à rentrer dans la cellule et a réussi à se reproduire. Mais l'étape déterminante pour sa capacité justement de rentrer dans une cellule, c'est cette liaison, cette adhésion que le virus a entre sa protéine spicule et la surface de la cellule. Alors, si votre protéine spicule, qui est à la surface du virus, est capable de mieux se coller sur la cellule, ça veut donc dire que vous allez être plus facilement infecté. Donc, le virus, dans une population donnée, devrait se transmettre beaucoup plus activement. Et ce qu'on voit justement pour les trois variants qui nous concernent en ce moment, celui du Brésil, celui du Royaume-Uni, celui de l'Afrique du Sud, eh bien, on sait ce changement-là, justement, au niveau de la protéine spicule du virus, donc à la surface du virus, qui fait en sorte que ce virus, en tout cas du moins de ce qu'on comprend, se colle plus activement et facilement à la surface de nos cellules et comme ça initie beaucoup plus efficacement le processus d'infection. Ce qui veut donc dire que sur une population, un variant, lui, va être capable de plus facilement se transmettre. Ce qui veut donc dire qu'il va être devenu plus prédominant. Et on est devant la situation actuelle où on avait initialement 15 à 20% des échantillons positifs pour le variant du Royaume-Uni, entre autres, qui était présent dans les échantillons jugés positifs pour le virus. Et maintenant, on se rapproche plus progressivement vers 50%. Alors, c'est tout simplement que le virus compétitionne, les variants compétitionnent avec les virus qui circulent. Et ceux-là ont un net avantage sur leur capacité de se transmettre. Et c'est pour ça qu'on voit cette augmentation-là en termes de pourcentage dans les cas d'infection.
Mm-hmm. Et puis, règle générale, est-ce qu'on peut dire qu'un virus... On dit que c'est intelligent, hein? Ça, on aura appris ça au cours de la dernière année. Beaucoup d'experts comme vous nous ont expliqué. Les virus sont intelligents dans la mesure où ils réagissent très vite, ils s'adaptent. Et un virus, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus intérêt, finalement, à optimiser sa transmissibilité plutôt que sa virulence? C'est-à-dire, il y a plus avantage à se répandre plutôt qu'à nous attaquer puis à nous tuer. Parce que s'il tue l'humain, il se tue lui-même, dans le fond.
C'est exactement ça. À part, évidemment, s'il y a un autre réservoir. En d'autres mots, s'il est capable d'infecter d'autres espèces à ce moment-là, il peut être très dangereux pour une espèce comme l'humain, mais cependant être capable de se reproduire et de se maintenir dans une autre population. C'est le cas probablement d'Ebola. Ebola, lorsque vous avez une infection dans une population, dans une communauté, eh bien, il y a près de 90% des gens qui en décèdent. Ça peut être entre 50 et 90%. Donc, très virulent, extrêmement dangereux, mais sauf que il y a des espèces, comme probablement la chauve-souris, qui maintiennent le virus actif et réplicatif sans pour autant que les chauves-souris en décèdent. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais dans le cas du virus de la COVID-19, en effet, il y a tous les avantages déjà au tout début. Donc, en d'autres mots, hautement transmissible, il est quand même mortel. Donc, on sait quand même qu'il y a un certain pourcentage de personnes qui a décédé. La majorité, quand même, comme vous savez, guérissent. Mais n'empêche qu'il est hautement transmissible. Il a été hautement transmissible dès le début. Il y a eu un petit changement dans sa composition génétique qui a eu lieu dès le départ. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment ce virus-là qui s'est transmis à travers la planète. Maintenant, en ce moment, il a été transmis, il a infecté plusieurs individus, mais il continue d'évoluer. Et il évolue pour être plus transmissible et continuer justement de se transmettre plus activement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui du Royaume-Uni est aussi plus mortel, donc plus dangereux, mène à plus d'hospitalisation. Alors, lui, en soi, en bout de ligne, pourrait devenir un peu moins avantageux que d'autres qui seraient moins dangereux au niveau de la population humaine. Alors, il y a cet équilibre-là qui se fait, mais en ce moment, on est dans une fenêtre de temps qui est trop courte, et celui-ci, vraiment, est tout simplement plus transmissible et correspond au variant qui est le plus prévalent à travers le Québec, le Canada et l'ensemble des plusieurs pays.
Mmh. Et celui d'Afrique du Sud, justement, qu'on a vu apparaître à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, où il y a plusieurs cas. Là, les gens me disent, d'où ça vient? C'est des gens qui viennent d'Afrique du Sud qui nous l'amènent, alors que les frontières sont fermées, ou à peu près. Comment ça se fait qu'un variant comme ça peut apparaître à Val-d'Or? Puis ce qui est inquiétant, c'est peut-être, je lisais ça, que c'était peut-être une mauvaise nouvelle, c'est que le variant sud-africain, et plus encore même le variant brésilien, qu'on a vu d'ailleurs à Manaus, là, la capitale d'Amazonie, en décembre dernier, il serait capable de résister à l'effet vaccinal, au vaccin. Donc, si vous voulez, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, parce que ça, c'est intéressant, puis on en parle très peu de ça. Je trouve que ça fait œuvre utile que d'expliquer ça à nos auditeurs, de tout comprendre un peu comment ça marche, ces variants-là, puisqu'ils semblent représenter une menace importante pour ce risque de troisième vague. Là, je pense qu'on peut sans doute bien comprendre que ça nous pend au nez si on n'est pas déjà un peu dedans. Dites-moi si ça vous inquiète, 514-790-9850, si vous pensez que c'est bien le temps d'assouplir un peu. On va parler des gyms tout à l'heure, d'ailleurs, avec des gens de l'industrie des gyms qui rouvrent aujourd'hui, même en zone rouge. Évidemment, mesures sanitaires obligent. Il y a des conditions à respecter. Mais quand même, les écoles lundi, les profs qui continuent de se plaindre qu'il n'y a pas vraiment de campagne de vaccination prévue pour eux. Il y a tout ça qui se passe. Puis il y a même des zones qui vont passer au jaune où là, il n'y aura même plus de couvre-feu. Et là, on parle des variants. Alors, bon, vous en êtes où, vous, dans votre réflexion, chers amis? Vous me le dites également de l'extérieur en faisant le 1-866-790-9850. Faut-il s'inquiéter de l'augmentation des cas de COVID à la lumière de tout ce qu'on a dit avec le virologue Benoît Barbeau, mon invité? Jean, comment vous sentez ce matin? Êtes-vous inquiet, vous, de voir ces chiffres augmenter?
Oui, Isabelle, je t'inquiète un peu. Je regarde tout ça, ce qui se passe. Là. Mm-hmm. Écoute bien, après ma barre, j'aimerais passer une belle été. OK? Comme tout le monde. On est-tu d'accord là-dessus?
Tellement.
Alors, moi, là, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour passer une belle été. Je regarde hier, là, worldwide, OK, partout, là. Mm-hmm. Même, on n'a pas parlé, la Pologne sont en confinement, là. Au Brésil, c'est 100 000 cas hier. Je répète, là, 100 000 cas.
Non, mais le Brésil, ça va vraiment pas bien, notamment à cause de l'Amazonie. Ouais.
Exact. Ouais. Alors, moi, là, je regarde la semaine prochaine, les secondaires, ça va être wide open.
Ouais.
OK, dans toutes les écoles, dans les zones rouges. Moi, honnêtement, comme je te le dis, là, pour finir, Isabelle, là, moi, là, je suis prête. Écoute, depuis le mois de mars, je suis en confinement. Moi, là, un mois et demi, là, ça ne va pas changer grand-chose
dans
ma vie.
Vous dites, pour avoir un bel été, je suis capable de donner un autre mois.
Je vais avoir une belle été, Isabelle.
Ah, tellement. Merci, Jean. Vous avez tellement raison. Je pense que beaucoup de gens se sentent comme lui ce matin. Martine, bonjour, Martine.
Oui, bonjour. C'est certain que ça m'inquiète parce que de ce que je vois, c'est que on parle des modèles, des projections, des pronostics, sauf que tout ça, c'est basé sur des statistiques. Ça fait que ça prend beaucoup de données pour faire un modèle, puis là, on se base sur ce qui est arrivé, on est toujours en réaction. Je me demande comment ça se fait aussi qu'on n'a pas entendu parler de développer un vrai vaccin qui amènerait une vraie immunité. Moi, j'avais compris que ce qu'on a là avec l'ARN, c'était quelque chose comme temporaire, en attendant, parce que ça prenait du temps à développer un vrai vaccin. Mais comme c'est là, de toute évidence, les ARN, je sais pas quoi, ça fait pas toute la job que ça devrait faire, puis on peut pas courir de même pendant des années. Il faudrait qu'il y ait du monde qui planche là-dessus, il me semble.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, Martine. Je me tourne vers Benoît Barbeau, virologue. Monsieur Barbeau, c'est intéressant l'idée d'un vaccin, finalement, qui nous... permettrait d'être finalement immunisé pour une plus longue période, en tout cas, ça serait un peu plus complexe à développer, sans doute que déjà des gens planchent là-dessus. Qu'est-ce que vous en savez, vous, par exemple, de ce genre de vaccin?
Bien, vous savez, les vaccins ARN, ce sont des vrais vaccins. Donc, c'est des vaccins dont le but est d'induire une réponse immunitaire qui va vous protéger par la production des anticorps et qui, en effet, on espère, va pouvoir aussi générer une réponse mémoire. Et puis, tout comme les vaccins qui sont en ce moment développés, AstraZeneca, Johnson & Johnson, encore là, c'est tous des vaccins. Ils ont des efficacités qui varient, mais n'empêche qu'ils sont là pour nous faire en sorte qu'on génère une réponse immunitaire qui devrait être à moyen ou long terme. Alors, ce n'est pas... Les vaccins actuellement à ARN ne sont pas moins bons, moins efficaces que d'autres vaccins où on prend, par exemple, des virus atténués ou des virus qui sont inactivés. Ça demeure quand même une approche vaccinale qui se veut efficace pour le moyen terme, mais possiblement pour le long terme.
Mais la qui est nouvelle pour... quand même, M. Barbeau.
Oui, tout à fait.
Et dont on... je suis pas certaine, là, puis je suis pas scientifique forcément non plus, mais je lis tellement de choses là-dessus, puis je parle à beaucoup d'experts. Et là, on commence, parmi les experts, à soulever des inquiétudes par rapport aux effets secondaires. On l'a vu avec toute l'affaire, le dossier AstraZeneca, mais je veux dire, on parle très peu du Pfizer et du Moderna, qui pourtant, c'est deux vaccins ARN. C'est une nouvelle technologie, ça passe par les cellules. Comment peut-on nous garantir qu'il n'y ait pas d'impact sur les cellules? Je veux dire, sans être complotiste puis dire que c'est de la thérapie génique, on n'ira pas là ce matin, mais il y a quand même là, par exemple, j'ai lu des choses comme quoi certaines études et experts pensent que ça peut créer, par exemple, des tempêtes chez les gens des tempêtes inflammatoires chez les gens qui ont plus de problèmes ou qui sont à risque, qui ont tendance à faire des maladies inflammatoires. Ça, on le dit peu, ça, Benoît Barbeau.
Oui, mais attendez un petit peu. Il faut faire attention avec les sources qu'on a. Je veux dire, ce vaccin-là va produire une protéine au même titre que les adénovirus de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca vont produire la protéine. Le seul but, c'est de produire la protéine, une facette du virus qui va permettre d'enclencher une réponse immunitaire. Donc, vous n'êtes pas nécessairement plus sujet à avoir des effets secondaires par la technologie d'ARN que toute autre technologie adénovirus ou les stratégies qui sont plus standards. Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle technologie, mais n'empêche qu'on utilise quand même une stratégie qui est basée sur le fait qu'en bout de ligne, vous allez exposer votre corps avec une composante du virus et vous allez entraîner une réponse immunitaire. Donc, personne, il n'y a pas une compagnie pharmaceutique qui pourrait dire qu'à coup sûr, il n'y aura jamais aucun effet secondaire. Alors, ça serait un mensonge énorme. Et si jamais vous avez une entreprise qui vous dit ça, méfiez-vous.
Ah, c'est sûr.
Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, il y a eu des millions de doses qui ont été distribuées. La stratégie aussi derrière l'ARN, c'est que c'est quand même une substance extrêmement fragile, délicate. Fait que lorsqu'elle va rentrer dans vos cellules, elle va faire en sorte qu'elle va produire la protéine du virus. Et après ça, cet ARN-là disparaît et votre réponse immunitaire s'engage et c'est là que vous êtes protégé. Alors, c'est très transitoire, très efficace et les effets secondaires, bien qu'ils peuvent être attribuables d'autres composantes du vaccin, devraient être extrêmement rares et en ce moment, on les voit qu'ils sont extrêmement rares. On ne peut pas garantir de tout, mais n'empêche, soyez confiants que cette nouvelle technologie-là quand même a est sécuritaire et puis tout ce qu'on voit, tout ce qu'on comprend, donc appuie ces théories.
Je parlais du variant de l'Amazonie, là. En fait, ce serait comme une variante. C'est le variant sud-africain. Il y a le variant brésilien, donc celui plus particulièrement qu'on commence à appeler maintenant le variant de l'Amazonie. Parce que à Manaus, capitale de l'Amazonie, on a vu là que la contamination a pris des proportions incroyables, à tel point que les autorités hospitalières locales étaient saturées, il n'y avait pas de bouteille d'oxygène, bref. Et là, on s'est rendu compte que, malgré tout, il y avait comme plus de les trois quarts de la population qui avait été massivement infectée par la première vague. Et les trois quarts d'entre eux ont développé des anticorps. On s'attendait à ce qu'ils soient donc immunisés collectivement contre la troisième vague. Et là, on se rend compte que c'est pas le cas du tout. Alors là, la question que tout le monde pose, c'est est-ce que ce variant-là de l'Amazonie brésilien, et on pense que peut-être le sud-africain serait du même genre, est-ce qu'il serait capable de résister au vaccin actuel? Ou à effet vaccinal même?
Bien, on sait, en tout cas, les études ont déjà été réalisées, donc on sait que les formulations vaccinales actuelles sont beaucoup moins efficaces contre ces variants. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes infecté naturellement par un virus, le but du virus, lui, c'est de se reproduire et d'infecter d'autres personnes. Alors, d'une part, votre réponse immunitaire ne sera peut-être pas à la hauteur de la réponse immunitaire qui est engagée lorsque vous recevez votre vaccin. Autre point, c'est qu'il y a d'autres composantes du virus dans son bagage génétique qui s'assurent justement que votre réponse immunitaire ne sera pas optimale. Parce que le virus ne fait pas juste produire des protéines. Dans son bagage génétique, c'est pas juste il contient pas juste des informations qui lui permettent de produire des protéines uniquement pour le virus, mais aussi pour agir parfois comme en bloquant la réponse immunitaire. Alors, le virus, la COVID-19, a ces éléments-là. Tout ça pour vous dire que, en ce moment, les vaccins vont être fort probablement plus efficaces à neutraliser même ces variants, et ça, on l'a vu dans certains tests et études qui ont été réalisées, d'autres ont été un petit peu moins convaincants. Mais n'empêche que c'est la meilleure solution. Je veux juste rajouter une dernière information. C'est que en ce moment, on semble parler de Pfizer, Moderna, qui sont comme des solutions temporaires de vaccin. Mais toutes les autres formulations vaccinales, que ce soit avec des virus atténués, des virus qui sont inactivés, auront le même problème face à ces variants. Pourquoi? Parce qu'encore là, ils sont produits à partir d'un virus qui est de l'origine de la pandémie. Et les variants actuellement, justement, ont des compositions différentes, si bien que ce que vous allez retrouver en termes de réponse immunitaire avec un vaccin ARN, un vaccin avec des adénovirus, donc comme AstraZeneca, ou encore les vaccins plus standards où on utilise des virus complets, et on aura exactement le même problème. En ce moment, on a des bons vaccins qui fonctionnent.
Ouais, là, je voulais juste vous dire qu'il y a tellement de variants qui arrivent. Là, j'ai lu ce matin sur le variant de Bavière aussi, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est inquiétant. Il va y en avoir combien de variants avec lesquels on va devoir négocier?
Probablement une quantité importante. Mais on ne sait pas à quel point, justement, qu'on va se retrouver avec plusieurs variants. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des variants en Californie, à New York. Donc, le virus évolue, mute, et il y a plusieurs approches de séquençage où on essaie de voir un peu l'ensemble de ce qui se passe. Il y a toujours des variants qui vont faire surface. Mais cependant, avec des vaccins qui sont extrêmement efficaces, évidemment basés sur le virus initial, on peut espérer, penser qu'on va être capable justement de vraiment cibler l'ensemble des variants et de contrôler la pandémie. Dernier point qui est très important, et encore là, sans pour autant vendre trop la technologie ARN, rappelez-vous que cette technologie-là est extrêmement efficace et rapide. En d'autres mots, en quelques semaines, ils le font en ce moment. Ils sont capables d'adapter leur vaccin envers un variant. Et ça fait en sorte qu'on va être beaucoup plus adapté avec ces technologies-là pour répondre aux variants futurs qui pourraient nous causer d'autres problèmes. Ouais. Mais en ce moment, on a quand même une très bonne campagne vaccinale. On a des très bonnes formulations.
Ça va juste pas assez vite. On est d'accord.
Ça devrait aller plus vite. On espérait que ça allait plus vite. Et plus que ça va aller vite, mieux qu'on va pouvoir le contrôler. On espère d'être vraiment dans une situation une été beaucoup plus agréable que 2020.
Oui, parce que là, ce qui est inquiétant, Benoît Barbeau, c'est que là, on voit que tous les pays commencent à faire du protectionnisme vaccinal. Nouvelle expression. Je sais pas si elle était sortie avant, mais je viens de l'inventer. Tout le monde se garde ses propres vaccins. Là. On l'a vu.
Elle est
là.
Très juste, en effet, malheureusement.
Ça nous prend 14 millions de doses au Québec, 2 doses par 7 millions d'habitants qui soient en âge d'être vaccinés. Là, on est à un peu plus de 1 million. Ça va prendre à Noël. Ça va être notre cadeau.
Non, je pense qu'on devrait arriver plus vite. Je crois que ce qui va nous aider, c'est bon, évidemment, plus de doses, plus de sites de vaccination, certainement. Le problème avec AstraZeneca en ce moment avec l'Europe, évidemment, c'est vraiment une confrontation entre le groupe Oxford AstraZeneca et l'Europe, là, donc les pays européens qui vraiment sont en une guerre vraiment extrêmement avec des propos assez durs.
Oui, oui, tout à fait.
Et on a la situation aux États-Unis. Mais n'empêche que je crois que les doses vaccinales semblent quand même arriver à un certain rythme. Et comme le gouvernement québécois a mentionné, d'ici juin, on devrait avoir tous reçu la première dose ou presque.
Oui, exact. Alors 24 juin. Oui. Puis on va espérer que ça soit l'occasion de fêter à la Saint-Jean. On aime ça d'abord, fait que ça serait une bonne raison. Merci, Benoît Barbeau. On va falloir qu'on se reparle la semaine prochaine. J'avais encore plein de questions, mais il faut que je m'en garde un petit peu. Merci. Vous êtes fort intéressant. Merci beaucoup, Benoît Barbeau. Il est virologue. Ça clarifie des choses aussi, puis on apprend plein d'affaires. Moi, je trouve ça fascinant, le monde de la virologie. Êtes-vous d'accord? Bon, là, en même temps, les gyms rouvrent aujourd'hui. Là, si vous êtes inquiet, est-ce que vous estimez qu'on aurait peut-être dû se garder une petite gêne? Évidemment, on va parler à des gens de l'industrie, hein, des gyms qui, pour eux, là, ce matin, là, c'est comme Noël, justement. Je vous parlais de Noël. Pour eux, le cadeau, c'est ce matin. On va leur parler tout de suite après. Puis vous me direz, vous, si ça vous inquiète, au 514-790-9850.